L'ombilique des limbes sur Fréquence Mistral. L'émission en sciences sociales et sciences humaines présentée par Hélène Bonis-Montoya. Aujourd'hui, le thème de notre émission porte sur ce que l'on appelle communément la crise. Pour illustrer ce que peut être une crise, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir le metteur en scène Sébastien Valignat, qui tourne actuellement avec la compagnie Cassandre la pièce nommée Tina. Le titre « Because » des Beatles donne un petit peu le son de cette émission. Il paraît que la crise, ça rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Moi, je vois pas en quoi c'est une crise. Ça a toujours été comme ça. C'est Coluche qui portait ces paroles. Je vous propose de réfléchir à ce mot « crise » dans toutes ses dimensions et ses répercussions. Pour parler des répercussions, nous serons en compagnie de Sébastien Valignat, metteur en scène de la compagnie Cassandre, actuellement en tournée dans les Alpes de Haute-Provence. Une crise, ce peut être personnel, c'est-à-dire vécue dans notre chair, nos sentiments. Une crise, cela transforme notre perception du monde, nos espoirs, nos croyances, mais aussi... Cela peut provoquer des crises de regard, d'écoute, de mobilisation de notre entourage. Il existe des crises solitaires ou des crises partagées, des crises extérieures ou des crises intérieures, des crises provoquées par les autres et souvent par nous-mêmes. À l'origine, ce mot « crise » est issu du terme médical « crisine », au sens de « phase décisive d'une maladie ». C'est-à-dire que ce mot latin est lui-même emprunté au grec « crisis », dans le sens d'une décision et d'un jugement. Par exemple, quand on parle du domaine psychologique, on évoque des crises de nerfs ou des crises de passion. Quand on transpose cela au domaine moral, on parle d'un moment critique, en parlant d'une intrigue ou d'un procès, et l'on emploie alors le mot « être dans la crise ». À pieds joints, on a sauté dans la crise. De là, l'accent est mis sur une idée de trouble ou de déséquilibre profond. Et le mot, peu à peu, au fil de l'histoire, se spécialise dans deux acceptations. Une acceptation individuelle, par exemple quand on parle de crise de l'adolescence, ou une acceptation plus collective, par exemple quand on parle de crise économique. Les fameuses crises économiques de 1823, 1929 ou 2007 sont encore dans nos mémoires.
Un canard a dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard a dit à sa canne, ricane et la canarie.
Des ricanements à la canarie, nous avons préféré les jeux de mots de cette dernière, chantés par Karine Magnéto. Donc Sébastien Valigna, vous êtes l'invité de l'Ombilique des Limbes aujourd'hui. Bienvenue dans les Alpes de Haute-Provence où vous avez présenté votre spectacle Tina. Vous êtes metteur en scène et dans ce spectacle, vous avez changé plusieurs fois de personnage et les deux autres acteurs qui vous accompagnent également. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment cette crise, cette description de la crise, à la fois sérieuse, burlesque, cruelle et en même temps profondément humaine, vous a atteint au point que vous souhaitiez nous en parler?
Alors en fait, si je remonte à vraiment l'origine du spectacle, en septembre 2008, peut-être que certains des auditeurs, auditrices se rappellent, on avait beaucoup parlé de la chute de la banque Lehman Brothers et de ce qu'on appelait beaucoup dans les médias la crise dite des subprimes. Partout, j'entendais dire dans les médias, c'est la crise. Moi, je suis né après les années 70, début des années 80, pour être précis. Et du coup, c'est depuis que je suis né qu'on me dit que c'est la crise. Donc, je dis, mais c'est, je ne vois pas ce que ça change, quoi. Avant, c'était pas la crise, c'était une fausse crise. D'où ça vient, cette histoire? C'est un peu parti de ça. Donc, j'ai commencé à lire, enfin, c'est d'abord une émission de radio, si je dois dire la vérité, où j'ai entendu une émission de radio où j'ai entendu un économiste parler, en l'occurrence Frédéric Lourdon, pour rendre à César ce qui était à César, et j'ai compris ce qu'il disait. Je me suis dit, tiens, c'est dingue, il essayait d'expliquer vraiment des phénomènes, je me suis dit, mais je m'étais jamais rendu compte que moi aussi je pouvais comprendre. J'avais l'impression que l'économie était quelque chose qui m'était complètement étranger, que je pouvais pas comprendre, qu'il fallait être un expert pour avoir un avis. Donc à ce moment-là, j'ai un petit peu lu des livres d'économie comme ça par plaisir personnel, et puis j'ai appris des trucs, je trouvais ça super. Il n'y avait pas du tout question d'en faire un spectacle.
J'avoue, j'en ai bavé pour vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril, en vain me joue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions
Il en a bavé, Serge Gainsbourg. Il nous invite à comprendre qu'il faut bien plus que le temps d'une chanson, la javanaise, pour se reconstruire après une crise. Si je comprends bien, pour vous, le concept est véritablement un concept élargi à l'acceptation collective. Et c'est vrai que cette acceptation collective du mot crise date du 19e siècle, mais encore aujourd'hui est très prégnant. En effet, les difficultés de l'Ancien Régime n'étaient pas interprétées en termes de crise, mais plutôt comme une forme de problème aigu et cyclique, ce que vous nous disiez tout à l'heure, Sébastien, c'est-à-dire que la crise, c'est encore la crise, mais depuis quand c'est encore la crise ? Ces problèmes aigus et cycliques se sont en fait réellement développés après les années 1850, dans le cadre de ce que l'on nomme aujourd'hui le développement d'une économie industrielle, le fameux mot « capitaliste », surtout après la crise de 1873. Mais le dérèglement, le paroxysme de la crise, celui que vous nous décrivez si bien dans votre pièce Tina, lui a été, je crois, au fil de l'histoire occidentale, véritablement illustré par le crash financier de 1929. Ce crash financier de 1929 qui laissa dans la rue des centaines de petits épargnants a amené un paroxysme de violence dans des répercussions tout autant sociales que sociétales. Votre pièce, Tina, a précisément décidé de faire démarrer son histoire le 2 avril 2007, lorsqu'éclata la crise financière la plus grave depuis celle de 1929.
En mai 2010, peut-être que certains des auditrices, auditeurs se rappellent qu'on a commencé beaucoup à parler dans les médias des problèmes que la Grèce avait avec sa dette. Les Grecs avaient maquillé leurs comptes, ils avaient triché, ils étaient malhonnêtes. Enfin, il y avait quelque chose qui était extrêmement violent, comme ça, de la façon dont la Grèce était traitée dans les médias. Je ne connaissais pas grand-chose à l'époque en économie, mais assez pour me rendre compte que la façon dont les médias traitaient cette crise grecque était insatisfaisante. Notamment parce qu'il n'y avait aucun lien entre ce qui s'est passé entre 2008 et 2010, c'était juste des gens qui avaient triché. Si la triche avait existé, elle avait quand même été faite avec la bénédiction de l'Union européenne, entre autres, et puis ce n'était pas la cause principale. Donc du coup, avec Simon Granja, l'auteur du texte, on a décidé de faire un spectacle pour essayer un petit peu de désexpertiser l'économie, de donner quelques clés aux gens, avec notre outil qu'est le théâtre, pour essayer de se réapproprier ce truc qu'est l'économie qui nous est régulièrement confisqué.
Thank you.
C'était la suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, numéro 5 en do mineur, interprété par Maurice Gendron. Sébastien Valignat, vous tournez actuellement la pièce Tina avec la compagnie Cassandre. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de l'Ombilique des Limbes. Ce jour-là, le 2 avril 2007, lorsque votre pièce commence, sombre la New Century Financial Corporation, c'est-à-dire que le deuxième plus important fournisseur de prêts hypothécaires que l'on connaît sous le terme des subprimes des États-Unis a coulé. Ce naufrage a entraîné avec lui la faillite d'un système, la fin d'un monde, celui du capitalisme, mais aussi une sorte de rouage diabolique de l'ensemble des mécanismes que vous n'hésitez absolument pas, Sébastien Valignat, à dénoncer. Y a-t-il un des rôles qui a été plus difficile que les autres à incarner, en termes peut-être de responsabilité morale ou tout simplement lorsque vous avez été dans la peau de l'un de ces personnages, c'était peut-être plus émouvant ou plus difficile?
La volonté qu'on a eue en racontant ce spectacle, c'est d'adopter un point de vue qui dit « la crise a eu lieu parce que tout le monde a bien fait son job ». Il y a beaucoup d'explications à cause de la crise, notamment c'est une crise où tout le monde a fraudé quasiment. Les banques ont fraudé, les courtiers ont fraudé, les emprunteurs ont fraudé, il y a de la fraude à tous les étages. Néanmoins, la crise aurait eu lieu si jamais tout le monde avait respecté le cadre de la loi. Donc nous, ce qu'on a voulu véritablement à l'intérieur de ce spectacle, c'est que les personnages incarnent des structures. C'est-à-dire, la personne qui joue le banquier ne joue pas la personne banquier, mais joue l'ensemble des banques. C'est une sorte de, voilà, c'est une vision un peu structuraliste de cette crise. Et du coup, la difficulté qui a été dans l'écriture et puis dans l'interprétation, je peux parler pour mes camarades, en l'occurrence Guillaume Motte et Tommy Luminé, pour les citer, c'est comment ne pas juger son personnage. C'est-à-dire, quand on joue le banquier, comment ne pas faire passer le banquier pour un salaud. Je veux dire, le banquier fait de l'argent parce qu'il a les moyens d'en faire. Et si on était dans cette situation, il ferait la même chose. C'est un problème structurel. On peut pas reprocher aux traders de faire leur boulot de cette manière-là. C'est des gens à qui on donne des motos qui montent à 300 km/h. On leur dit, sur l'autoroute, c'est limité à 130. T'inquiète pas, il n'y a pas de radar, il faut que tu arrives premier. Structurellement, le gars va faire des excès de vitesse parce qu'il doit arriver premier. C'est son job. Et il est formé à ça, il est conditionné à ça. Donc la grosse difficulté, je crois, d'interprétation, ça a été d'essayer de comprendre par où sont passés les personnages de la structure, d'essayer de dire, ok, en fait, ce qui va pas, c'est comment les engrenages sont foutus et pas les banquiers sont des salauds, les agents de notation sont des... Voilà. Même si, de fait, il existe des personnes, une oligarchie qui se bat, aujourd'hui des personnes qui se battent pour maintenir un système politique en place que, il se trouve que dans l'équipe, on juge à peu près tous comme injuste. Même tous.
Waiting for me anymore. story is there on the door. A cottage for sale. A cottage for sale.
Superbe complainte, chantée et jouée au piano par Bill Cowers, A Cottage for Sale. Le langage de cette injustice provoquée par cette crise, je l'ai effectivement retrouvé dans votre pièce de théâtre, Sébastien Valigna. Je le rappelle, vous êtes metteur en scène et vous avez présenté la pièce avec le théâtre de Durance, Tina. Ce langage, il reprend le langage de la crise financière. Dépression, fragilité, suicide. Nous sommes bien dans les dimensions et les répercussions du tout début de cette émission. Et aujourd'hui, ce mot, il est réellement utilisé dans le sens de malaise, crise de valeur, crise de notre civilisation. C'est un peu comme si depuis 2007, cette déflagration avait explosé le visage du monde moderne. Je vais prendre une métaphore de l'anatomie. Vous-même, vous avez donné plusieurs visages à vos personnages. Banquier, citoyen, courtier, agent de notation, trader, agent immobilier ou président des États-Unis d'Amérique. Dans ma métaphore, le financier a donc un visage qui explose. Il va blesser très gravement le bras droit du politique. Mais comme il a deux bras, il va également blesser le bras gauche de l'économique. Mal soignée, la gangrène semble avoir atteint également le corps lui-même, dans son intégralité, et déclenché une crise écologique qui menace la planète. Le changement technologique, les cycles de l'économie que vous décrivez, ou les évolutions de la culture, contribuent à nourrir une impression de constante nouveauté et, par contre-coup, de fin d'époque. Mais aujourd'hui, plusieurs crises se juxtaposent. Nous l'avons vu, crise personnelle, crise économique, crise politique. Peut-être, Sébastien Valigna, en tout cas je l'ai pensé lorsque j'ai assisté à votre représentation tout à l'heure de la pièce Tina, peut-être ce que vous essayez de faire, ce que vous tentez de faire, c'est de redonner la parole à ceux qui l'ont perdue. Redonner la parole à ceux dont la voix a été étouffée par ces grands mouvements de crise. À ceux qui ont vécu des crises solitaires. Et vous, aujourd'hui, vous proposez peut-être, Sébastien Valigna, d'en partager au moins la compréhension et donc de libérer la parole.
En fait, on a eu des témoignages assez beaux qui ont eu lieu des fois. La difficulté, c'est que sur les prises de parole publiques de cette manière-là, c'est très difficile de délivrer une parole intime. Et les fois où c'est pas le lieu pour, je crois. Et les moments où elle sort souvent avec une sorte de violence, quoi. Et j'ai souvenir d'une représentation où il y avait quelqu'un qui était assis au premier rang, qui avait rien dit pendant toute la discussion. Et qui, alors qu'on avait quasiment fini, se manifeste comme voulant rajouter quelque chose, et simplement en contredisant quelqu'un qu'il avait accusé, enfin qui y avait, comment ça s'est passé exactement ? Je vais essayer de reprendre ma phrase. Qui avait simplement fait un témoignage un petit peu brut en parlant de ce que ça voulait dire gagner sa vie. Et simplement quelque chose qui était de cet ordre-là. Il y avait des gens qui travaillaient sûrement dans des banquiers, je crois, en l'occurrence. Tant pis pour eux, en l'occurrence, c'était ça. Qui avaient parlé des difficultés, de ce que c'était le métier. Et lui s'est mis simplement à faire un témoignage brut et vraiment quelque chose de très simple sur la violence institutionnelle que pouvait représenter le travail, qui est venu complètement balayer l'argumentaire qui avait lieu un petit peu avant, mais il s'est sorti un peu plus tard, et ça c'était assez bouleversant. Mais les questions ne sont pas tant posées sur un rapport intime, les questions qui sont posées généralement sont sur des questions politiques, et ce qui me touche énormément à l'intérieur des débats, c'est la volonté des gens de changer les choses face à un système qu'ils estiment injuste. Et cet espoir-là, je crois, est quelque chose d'extrêmement positif, parce que si on l'a perdu, on a tout perdu, et c'est une vraie première pierre.
On pourrait conclure cette émission, Sébastien Valignat, en se disant que les châteaux forts d'aujourd'hui sont bel et bien des forteresses économiques inexpugnables. Et que les princes de ce jour que l'on trouve dans votre pièce de théâtre, Tina, dorment sur des montagnes d'argent, qu'ils attendent des retours à court terme, mais empêchent les investissements. La concentration du pouvoir financier repose sur moins de 60 personnes dans le monde. Elle permettrait de nourrir plusieurs milliards d'individus. Or, ces financiers, qui ont des entreprises, détournent même une part grandissante des bénéfices que dégage leur production vers la finance, nourrissant des bulles à répétition, la stagnation et un chômage endémique. La crise actuelle plongerait donc ses racines dans l'organisation même du capitalisme contemporain.
Thank you.
Après la crise, le dicton dit souvent « Voici le réconfort ». Et c'était le morceau « Promessa » de Nelson Veras à la guitare. Sébastien Valigna, vous êtes l'invité de l'Ombilique des Limbes. Et par la pièce « Tina » que vous avez jouée grâce au théâtre de Durance, vous nous dites que la crise que vous décrivez dans cette farce théâtrale est structurelle. Mais elle est aussi la crise actuelle politique. Trois principaux débats ont cours à son propos. Le premier consiste à se demander s'il s'agit d'une tension vis-à-vis des élites qui seraient aujourd'hui anormalement ou exceptionnellement cupides et corrompues, ou si le problème renvoie plutôt à une défiance générale des citoyens envers les institutions de la démocratie représentative, à une crise de la représentation qui se traduirait entre autres par des taux d'abstention élevés aux élections, ou par la montée des votes d'extrême droite en Europe et notamment en Allemagne. Un paradoxe apparaît effectivement avec la montée en puissance de mouvements politiques extra-institutionnels. C'est une majorité de la population qui continue à croire à la justice, au Parlement, à l'administration, aux structures de l'État démocratique. Mais ce à quoi elle ne croirait plus en revanche, c'est à la capacité de ces élites, de ces fameux 1%, à œuvrer pour le bien commun, à générer des richesses ou à respecter la loi. Votre pièce de théâtre, Tina, Sébastien Valigna, est intéressante dans la mesure où vous nous dites que si nous étions à la place de ceux qui ont créé la crise, nous n'aurions pas eu d'autre choix que de la favoriser. Et nous l'avons vu, plusieurs crises se juxtaposent. Hugo Chavez parlait, lui, d'un volcan qui travaille de façon souterraine. Mais je voulais témoigner du fait que cette pièce que l'on pourrait, cette farce cruelle, que l'on pourrait qualifier de burlesque, d'absurde, mais qui frappe un très grand nombre d'entre nous aujourd'hui, a quand même une conclusion, et particulièrement grâce à ce débat que vous ouvrez ensuite, une alternative, une face qui pourrait être une face de transformation. Et je vous en remercie beaucoup, parce que lorsqu'a commencé votre pièce de théâtre, Tina, lorsqu'on défilait l'ensemble de ces personnages plutôt craints, haïs, ou dont on s'éloigne la majorité du temps, à la fin de votre pièce, effectivement, pourrait émerger, à la condition que les citoyens reprennent la parole, une véritable alternative positive. Le texte théâtral dont nous vous avons parlé aujourd'hui a été écrit par Simon Granja, avec le soutien dramaturgique de Sébastien Valigna, notre invité, avec une mise en scène par lui-même, assistée de Marich Bedlem. En comédien sur scène, nous avions Sébastien Valigna, Guillaume Motte et Tommy Luminé. La production et la diffusion de ce spectacle est de Sophie Présumé. Amis auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission L'Ombilique des Limbes, et notre invitée sera Marie Buchy, animatrice de Café Parento. À la technique aujourd'hui et au choix discographique, Michel Montoya.